France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Jonathan Coe pour son roman Le Cœur de l'Angleterre. C'est cette fois dans le Brexit qu'il plonge ses personnages, ou comment le pays, les familles, le système politique britannique aussi ont été déchirés en même temps et le sont encore d'ailleurs. Le bruit du monde est au Sénégal ce soir en Casamance, où l'onde des mines encore et toujours des années après les affrontements. Et puis Amélie Perrier nous emmènera au zoo de Gaza, qui est peut-être le pire zoo du monde. 18h50, le cinéma en VO, c'est Eva Bétan, un film brésilien ce soir qui évidemment résonne avec l'état du pays aujourd'hui. 18h55, Le Monde à l'envers, signé Franck Madvon ce soir, qui se demande si l'Iran n'a pas déjà gagné son bras de fer avec les États-Unis. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir, Jonathan Coe.
Bonsoir.
Le cœur de l'Angleterre nous ramène à des personnages qui nous sont familiers. On est content de retrouver notamment Benjamin Trotter, qui finit d'ailleurs par écrire son livre. Nous, on a peut-être tendance à présenter ce livre, en tout cas ici en France, comme le premier roman du Brexit. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire, tenter d'expliquer pourquoi votre pays est arrivé là? Ou est-ce que le Brexit s'est invité, au fond, dans la vie de vos personnages?
When I was younger, I used to write novels because,
quand j'étais plus jeune, j'écrivais des romans parce que je sentais que je comprenais le monde et je voulais l'expliquer à mes lecteurs. Mais maintenant que j'ai une cinquantaine bien avancée, je suis comme Socrate. Rien ne peut être compris, comme disait Socrate. Donc j'écris toujours, mais pour essayer de comprendre moi-même et pour poser des questions. J'étais vraiment étonné, choqué par le résultat du Brexit. C'était toujours très clair que le vote serait vraiment très, très, très près. Mais c'était un choc. Et j'ai écrit Le Cœur de l'Angleterre pour tenter de l'expliquer. La seule façon de le faire, ce serait de revenir à des personnages avec lesquels j'avais une certaine familiarité.
Un choc pour vous, une incompréhension, mais au fond aussi pour chacun de vos personnages. Vous avez choisi de commencer en 2010 et il y a cette phrase de Doug, qui est journaliste, tout au début du livre, qui dit « J'ai la nette impression que nous sommes à un carrefour, la colère monte, personne ne sait quoi faire et les gens ne savent pas expliquer contre quoi ils sont en colère ». La clé, c'est vraiment celle-là. Il y a une colère, mais on ne sait pas contre qui la diriger.
Vous
savez, je donnais une interview au sujet de ce livre hier, et quelqu'un m'a rappelé que dans le deuxième volume de cette trilogie, un personnage revient au Royaume-Uni, en Italie, en 1999, et reconnaît qu'il y a beaucoup de colère dans les rues. Il y a ce ton de frustration aussi. Donc ce sentiment de colère se poursuit depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. C'est un mécontentement généralisé. Les fruits du néolibéralisme n'ont pas été distribués de façon équitable. Fukuyama a écrit la fin de l'histoire. Et voilà, les gens sont très très emmerdés et très énervés.
Vous choisissez 2010 pour commencer votre histoire, mais pour commencer à expliquer cette plongée-là. Pourquoi 2010? Après tout, on pourrait revenir bien plus loin en arrière, y compris d'ailleurs aux années Thatcher chez vous.
Ça pourrait.
Mais
un roman, ça doit bien commencer quelque part.
Benjamin Trotter, mon héros, écrit un roman qui fait 3 000 à 4 000 pages, totalement impubliable, et je ne voulais pas faire la même chose. Donc j'aurais pu revenir des décennies ou même des siècles en arrière.
Il y a des épisodes qu'on a oubliés. L'idée de commencer en 2010 fait qu'il y a des épisodes qu'on a oubliés. Moi, j'avais oublié, en tout cas, les émeutes de 2011 qui ont été causées par la mort d'un homme qui a été tué par la police dans le quartier de Tottenham. Est-ce que à ce moment-là, vous avez le sentiment que le pays ne le sait pas encore, mais finalement, il est déjà en guerre contre lui-même, en fait. Ça a été peut-être un des signes avant-coureurs qui ont été, en tout cas, extrêmement mal lus par le pouvoir politique à l'époque.
Non, ça n'a pas été bien lu, bien compris par les pouvoirs. Et ça a été rapidement oublié. En faisant cette recherche pour ce roman et en décidant de la chronologie en général, j'étais étonné moi-même par le nombre de choses que j'avais oubliées, des choses, des faits extrêmement significatifs. Nous avons développé une amnésie historique très très rapidement. Des choses qui sont procédées, qui sont passées il y a quelques semaines, appartiennent désormais à l'histoire. Je me suis mis à parler de Theresa May, et c'était comme si je parlais d'une personnalité politique du 19e siècle, alors que c'était simplement il y a quelques semaines.
Et c'est vrai qu'on l'a presque oublié, Theresa May, j'exagère un peu, mais d'où la difficulté d'ailleurs d'écrire un roman sur une actualité qui est tellement mouvante et qui bouge non seulement chaque jour, mais parfois avec des pics extrêmement hauts, comme par exemple hier et avant-hier chez vous, dans votre pays. C'est ce qui rend les choses difficiles et qui brouille aussi peut-être un peu les cartes, y compris pour le romancier que vous êtes, non ?
C'est difficile, c'est un défi et c'est enthousiasmant.
On peut
essayer d'écrire pour la postérité et ne réfléchir qu'à l'avenir, comment vous serez lu dans un siècle, ou alors vous pouvez écrire pour le moment, pour l'instant, d'une façon quasi journalistique pour le temps présent. Et dans ce livre, j'ai essayé de le faire de cette dernière façon, pour l'instant. J'écrivais sur des événements qui s'étaient produits il y a 2 ou 3 semaines. Et c'était vraiment enthousiasmant, c'était vraiment un travail journalistique.
Il y a un personnage dans votre livre qui est particulièrement cynique, c'est le conseiller en communication de Cameron, avec lequel le journaliste discute très régulièrement. Il a cette phrase assez terrible que vous avez inventée, évidemment, mais enfin qui doit être très proche de la réalité, qui dit « Oui, c'est un pari, le Brexit, un pari colossal, l'avenir du pays décidé sur un coup de dé, mais David est prêt à prendre ce pari, et c'est ce qui en fait un leader fort et résolu. » Dit comme ça, c'est encore plus effrayant au fond.
Eh bien, quand on revient à la décision d'avoir ce référendum sur le Brexit, c'était organisé vraiment avec un désordre absolu, et c'est ça qui est difficile à comprendre.
Nigel,
le personnage du livre, ce spécialiste de la communication, n'est pas tellement cynique, il est simplement naïf, inexpérimenté, et ça finit par une sorte de cynisme, c'est vrai.
Et intégralement.
Mais ce dont on se souvient de David Cameron, c'est qu'il n'a jamais pensé qu'il allait tenir ce référendum, qu'il allait rester au pouvoir, mais qu'il n'y aurait pas de référendum. Je pense qu'il a été aussi étonné que nous tous par ce référendum et par ses résultats.
Et d'ailleurs, vous décrivez à la fin, c'est le même Nigel qui parle d'un canard sans tête, au fond, lorsque le Brexit est là, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Vous, le Britannique que vous êtes, Jonathan Coe, vous lui en voulez aujourd'hui encore il vous arrive d'y penser, à David Cameron. Est-ce que c'est lui le premier coupable sur lequel on pointe le doigt, finalement?
J'en suis arrivé à la conclusion que ça ne servait à rien de parler de coupable et de blâmer qui que ce soit. Il y a une colère exprimée dans le livre contre Cameron. Je l'ai exprimée, c'était une sorte de thérapie pour moi. Mais ce dont on parle, c'est un échec systémique. La faillite du système politique britannique et une collision entre deux forces de la démocratie, la démocratie directe et la démocratie représentative, qui, dans ce cas, ne peuvent être réconciliées.
Là, en parlant de réconciliation, la fracture que vous décrivez, qu'on voit dans certains des couples que vous formez, je pense à Yann et Sophie, mais aussi Benjamin et son père, l'un qui vote Leave, l'autre qui veut évidemment rester dans l'Union, une fracture qui se promène aussi entre Londres et Birmingham, entre un Londres qui est très, très pluriel et une classe moyenne qui est très déboussolée, très plurielle et en même temps très très chère. Vous décrivez donc ces fractures qui sont à la fois générationnelles et qui sont aussi géographiques, comme deux manières très distinctes de voir ce qu'est l'Angleterre aujourd'hui. Est-ce que vous, au fond, vous le savez, Jonathan Coe, ce que c'est que d'être anglais aujourd'hui?
Je crois que ma conclusion à travers l'écriture de ce livre,
conclusion
qui m'a été amenée par le processus de la campagne pour ou contre le Brexit, le fait qui m'a amené à voter, c'est qu'il n'y a pas d'anglitude, ça n'existe pas. Il y a des façon d'être anglais.
Il n'y en a pas ou il n'y en a plus.
Et ces façons d'être anglais sont en concurrence les unes avec les autres et avec des interprétations qui se combattent sur la signification de ce qu'est vivre dans ce pays.
Il n'y en a pas, il n'y en a plus, ou il y en a eu peut-être, parce que vous décrivez notamment la cérémonie des JO de 2012, on a l'impression que là, ça a été un peu comme le dernier vrai moment de communion de tout ce pays ensemble. Est-ce que c'était juste éphémère, ou la dernière fois, à votre avis ?
N'oubliez pas que la cérémonie d'ouverture des Jeux s'est produite en 2012, c'est un an après les émeutes à Londres. Donc les fractures de la société étaient déjà en place lorsque cette cérémonie s'est produite. J'écris au sujet de cette cérémonie dans le livre et je la commémore, je la célèbre, parce que je considère que c'est un moment merveilleux, mais aussi une merveilleuse illusion. C'était un spectacle qui nous a donné pendant quelques heures le sentiment de ce que ça voulait dire d'être britannique. Mais 4 ans plus tard, nous avons voté au cours de ce référendum et ce pays s'est retrouvé beaucoup plus polarisé que jamais.
On voit dans votre livre l'évolution de ces personnages qui commencent à se séparer les uns des autres, où chaque différence apparaît. Je pense à un moment, Yann qui dit à sa femme qui s'appelle Sophie, pour ceux qui liront, si le Brexit arrive, ce sera à cause de toi. On voit un autre personnage devenir de plus en plus raciste. Et vous avez décidé de pas raconter le moment du vote. Vous vous arrêtez 2 semaines avant et vous reprenez après, plusieurs mois après. Pourquoi, au fond, vous avez décidé de sauter ce moment-là ?
J'ai décidé de sauter le moment du vote parce que, d'une certaine manière, en termes de récit, de narration, c'est anti-suspense parce que tout le monde sait le résultat.
Et on a compris qui allait voter pour qui.
Quand les gens me posent une question au sujet du livre, faut pas divulgâcher, mais non. Bon, tout le monde sait que on a voté en faveur de quitter l'Union européenne. Et pour moi, c'était anti-suspense pour la fin du second acte dramatique du livre. Mais de façon plus importante, l'assassinat de Jo Cox, la députée britannique, qui a eu lieu exactement une semaine avant le vote pour le référendum, pour moi, ça a été un moment beaucoup plus significatif, beaucoup plus terrible, en termes littéraires et en termes de réalité.
Je ne veux pas divulgâcher, mais on va le dire juste en un mot, vos personnages, un certain nombre de vos personnages quittent l'Angleterre à la fin. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous voulez qu'ils fuient ce chaos ? Est-ce que vous vouliez qu'ils se réconcilient ? Est-ce que c'est une fuite sanitaire pour ne pas devenir dingue dans ce pays qui est en train, lui, de devenir dingue ?
Le héros de ce livre, Benjamin Trotter,
c'est
quelqu'un qui vit dans les fantasmes. Il n'a pas véritablement les pieds sur terre dans le monde réel. Sa décision de quitter le Royaume-Uni à la fin du livre et de s'installer en France. En partie, c'est pris pour des raisons personnelles, sa décision, mais aussi parce que il a ce fantasme britannique classique de la bonne vie à la française. Et bien sûr, les problèmes qu'il laisse derrière lui, les divisions qui déchirent la société britannique, on les trouve dans tous les pays européens. Et on les a certainement en France. Je suis arrivé samedi à Paris, il y avait des manifestations assez violentes
oui,
ici.
Comme vous dites.
Donc, si Benjamin était réaliste, il aurait su qu'il ne trouverait pas le bonheur dans un autre pays.
Et en même temps, on a le sentiment que vous vouliez absolument un happy end, en fait, parce que vous savez au fond de vous que le Brexit, c'est pas un happy end, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il vous en fallait un pour le roman, il fallait que vous réconciliez tout le monde, y compris les couples qui se déchirent, il fallait qu'il y ait un bébé qui arrive là-dessus pour qu'il y ait au moins quelque chose de positif dans cette histoire de Brexit à la fin.
The book is a tragicomedy.
C'est une tragicomédie, ce roman.
Comedy has a happy ending,
la
and
comédie
that's,
a une fin heureuse. Benjamin leaving et c'est France. Benjamin qui quitte le Royaume-Uni pour la France.
The tragedy is the story of Brexit.
C'est véritablement le Brexit.
Est-ce que j'ai cru vous entendre dire que peut-être vous allez les reprendre un jour ou l'autre, ces personnages, pas forcément tout de suite d'ailleurs. Est-ce qu'il faut aussi poursuivre, le romancier que vous êtes, a-t-il envie de poursuivre aussi l'histoire du Brexit, ou finalement, maintenant, c'est devenu tellement tragique au fond qu'il faut laisser ça aux politiciens?
Je ne voudrais pas travailler sur le quatrième tome à la suite des événements de ces derniers jours. J'ai dit que c'était très enthousiasmant d'écrire sur des événements qui se produisent, mais les développements au Royaume-Uni de ces derniers jours sont tellement dramatiques, tellement bizarres, que je ne sais absolument pas comment les placer dans un livre. Mais je vais continuer à écrire ce que j'appelle une histoire émotionnelle de mon pays. Ça a commencé en 1970, on arrive au temps présent, mais ça va aller dans l'avenir aussi.
Eh ben, on est bien content de savoir que vous allez évidemment continuer, Jonathan Coe. Ça s'appelle Le cœur de l'Angleterre, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup Michel Jotowski pour la traduction. Le livre, lui, est traduit par José Camoun. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite d'Un jour dans le monde est le bruit du monde en Casamance qui démine encore des années après les affrontements. Et Amélie Perrier, vous nous emmenez au zoo de Gaza.
Exactement, un zoo qui va rouvrir, un zoo un peu sinistre, il faut le dire.
Le cinéma en VO, Eva Bétan. Bonsoir Eva. Le Brésil à l'honneur ce soir.
Oui, et d'une certaine manière, Bacarao, film brésilien, annonce le tremblement de terre Bolsonaro.
Décidément, on va de tremblement de terre en tremblement de terre ce soir dans cette émission. Le monde à l'envers et Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne.
On en parlait ici même de ce bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Vous vous dites que l'Iran a déjà gagné.
Oui, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y aura pas de rencontre Trump-Rouhani à New York. Et si les Iraniens tiraient les ficelles au fond.
Allez, à tout de suite tout le monde. N'oubliez pas de revenir. On retourne en Angleterre. Tiens, avec Joy Crooks Hurts. C'est dans la playlist de France Inter. Bonne soirée.
When you walked in, but I never feel the drip when you're talking. Only meet me in the drought when you're falling. Never ask me how I like my eggs in the morning. Never ask me taking comfort in my shadow. But you seem to stay afloat 'cause you're shallow. You can never make a promise for tomorrow, 'cause all the time you choose to take has been borrowed. I just pull up then skirt. You just pull up when it hurts. Why, I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts. Why, daylight wants to creep in through my window. Now I've got you back in my arm. Now I'm moving from the shadow. I don't need to take a hit from your talking. When the hurricane comes, I'm on back roads. When the hurricane comes, you do not know. Oh, I feel the clouds of change when I'm riding in my spaceship. Calling out your rain 'cause it's no one's time to soak it. You left me hopeless, swimming in your ocean. Got me thinking twice what I'm involved in. I just pull up, then skirt. You just pull up when it hurts.
Le bruit du monde est au Sénégal. Ce soir, au sud du Sénégal, en Casamance, la région a été ravagée par le conflit entre l'État et les indépendantistes pendant les années 90, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, le conflit n'est plus actif, mais le processus de paix n'est pas achevé et les habitants subissent toujours les conséquences de ces affrontements. Les deux parties ont posé des mines sur tout le territoire. Il en reste un tiers. Et c'est l'histoire que vous nous racontez, William de Lesseux.
Entre les villes de Ziguinchor et Sédiou, le convoi d'Humanité et Inclusion, ex-handicap international, arrive dans la forêt de Bafata. Ici, c'est le camp de base des 16 des mineurs. Tout autour de ces hommes, de ces femmes, des panneaux « Attention aux mines » et des jalons rouges qui signalent la présence potentielle d'engins explosifs. Il est 7h du matin, la journée commence par le briefing de sécurité. Abdourahmane Ba, le chef des opérations.
Bienvenue. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère qu'on s'est bien reposé et le travail va se faire normalement comme d'habitude. C'est bon ? Allez, merci, bonne journée.
Avant, ici, il y avait le village de Bafata. Une piste permettait d'accéder au village voisin. Déserté, la zone a été envahie par la forêt.
Le village a été brûlé par les bandes armées suite à une exaction. Donc après tout, le village était obligé de quitter et de partir.
C'est une zone qui est encore minée, qui est derrière nous ?
En fait, ce n'est pas le village en tant que tel qui était miné.
Ce sont les environs.
Oui, c'est juste, on a découvert une mine tout au début de la piste. Maintenant, nous, notre travail, c'est de comprendre le système de minage ou bien l'idéologie des gens qui ont miné la piste et de libérer la population de ces mines. Donc c'est la piste qui est suspecte aujourd'hui. C'est là où on sait qu'il y a eu des accidents. C'est sur ça qu'on est en train de travailler.
Pour accéder au terrain miné, il faut revêtir ce qui ressemble à un grand gilet pare-balles puis un casque à visière. Sous un soleil de plomb, c'est une machine qui fait le plus gros du travail en retournant la terre et en faisant exploser les mines. Elle est pilotée par une femme, Elisabeth Sambou.
On est femmes quand on est chez nous. Hein. Ici, nous sommes tous des hommes parce qu'il n'y a pas de prise de parti. Il n'y a pas un travail pour les femmes, il n'y a pas un travail. Donc c'est un travail unique pour tout le monde.
Le nom de l'engin est Léonore, une sorte de char avec un grand râteau à l'avant. Tout est commandé à distance.
Une machine qui vient en appui des opérations de démineur. C'est une machine mécanique. En fait, c'est un démineur mécanique, si je peux l'appeler comme ça. Le tableau de bord est là. Donc on a toutes les touches, l'électricité, tout. Tout est contrôlé ici.
Et ce matin-là, la machine tombe en panne.
Oui, là, l'autre pignon est complètement rasé. Ouais, donc il y a un problème de parallélisme, ça ne fonctionne pas normalement. Donc il y a le pignon là qui fait tout le travail par rapport à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est la difficulté à laquelle on est confronté. Avec cette machine, du jour au lendemain, c'est des difficultés qui changent. Tantôt c'est un problème de filtre, tantôt c'est un problème de poussière.
Un problème révélateur du manque de moyens accordés pour le déminage. L'État du Sénégal n'a toujours pas versé l'enveloppe d'1 milliard de francs CFA, soit près de 2 millions d'euros. Un budget qui permettrait de pérenniser les opérations. Pourtant, l'engagement des démineurs comme Elisabeth ne faiblit pas.
Chaque fois que j'ai enlevé une mine, j'étais très fière. Et quand je rentrais à la maison, j'étais pressée qu'il fasse jour pour que je revienne encore sur le terrain. J'ai eu cette passion, cet amour, histoire de participer dans le développement, l'économie de la région de la Casamance dont je suis. Et j'en suis vraiment fière. Et pour moi, c'est ce qui me donne la force et le courage de me lever chaque matin pour aller plus loin. Vraiment, je veux que cette région se développe parce qu'il y a beaucoup de potentialité ici.
L'insécurité, l'ombre des rebelles, elle plane encore sur toute la région. Après le tournage de ce reportage, une partie de l'équipe de démineurs a été enlevée par des éléments armés. Baram Thiam, directeur du Comité national d'action anti-mine, représente l'État.
N'oublions pas que le conflit n'est pas encore éteint. Nous ne faisons pas du déminage post-conflictuel. Le dialogue n'est pas rompu. Les autorités au plus haut niveau sont en train de discuter. Nous également, à notre niveau d'exécutant, nous avons un contact assez huilé avec les avec toutes les parties au conflit. Hein. Donc, ce qui fait que donc, souvent, il y a des escarmouches comme ça, mais c'est pas très virulent.
Les démineurs enlevés ont tous été libérés, mais les activités dans la zone restent interrompues jusqu'à nouvel ordre, le temps que les risques soient totalement écartés, afin de poursuivre un déminage déjà précaire.
William Delesseux dans Un jour dans le monde et Le bruit du monde sur France Inter. Le bruit du monde, ça donne aussi ça. Eh ouais. Un lion en cage, au sens propre du terme. Amélie Perrier en cage à Gaza, vous nous emmenez au zoo et c'est un zoo particulièrement sinistre.
Ouais, comme un lion en cage n'est pas qu'une métaphore. Hein. Le zoo du territoire palestinien vient de rouvrir. Si les images qui nous parviennent nous montrent d'abord des enfants jouant avec d'adorables lionceaux, on voit ensuite un lion et une lionne dans des cages exiguës, quelques mètres carrés seulement pour chacun. En avril dernier, ce zoo avait fermé. Les animaux sortis de là par une ONG, For Paws, pour les emmener vers des sanctuaires animaliers en Jordanie. Des bêtes qui avaient souffert le martyre, comme le raconte ce vétérinaire de l'association. Il s'appelle Amir Khalil dans une vidéo du Monde. Il nous dit les lions sont traumatisés, c'est sûr et certain. Ils ont subi beaucoup de stress, des cages toutes petites, pas d'espace pour bouger. Ils ont été mal nourris pendant des mois, des années même. Et ils n'ont jamais été en contact avec de l'herbe de leur vie. C'est vraiment triste. Sans parler des lionceaux séparés de leur mère pour amuser les enfants. 4 sont morts de froid l'hiver dernier. La lionne dont on a arraché les griffes pour que les visiteurs puissent jouer avec elle. Aujourd'hui, on craint donc le pire, une nouvelle fois, malgré sa promesse à l'ONG de ne pas rouvrir. Le propriétaire affirme qu'il veut seulement mettre un peu de joie dans le quotidien d'une population enfermée dans la bande de Gaza, où le taux de chômage atteint 64% chez les jeunes. Ses détracteurs dénoncent une opération pour attirer les aides financières des organisations. For Paws, l'association avait versé $55,000 l'an dernier en vain. Un an plus tard, elle évacuait les animaux. En tout cas, il semble clair aujourd'hui que le zoo n'a pas les moyens de nourrir et de garder au chaud les animaux pour l'hiver à venir.
Au Liban, le retour d'un collabo, on met des guillemets, rouvre un débat très douloureux dans le pays.
Des collabos, voilà comment on appelle là-bas ces milliers de Libanais accusés d'avoir coopéré avec Israël. Cela remonte à la guerre civile entre 1975 et 90. Le village de Klaya, par exemple, au sud du pays, a été le bastion d'une milice supplétive d'Israël, une milice majoritairement chrétienne. Quand l'État hébreu a retiré ses troupes en 2000, les combattants de cette milice ont choisi de quitter leur pays, l'exil en Israël, pour éviter les représailles. À Klaya, aujourd'hui, plus d'une centaine de maisons sont abandonnées. Le Hezbollah, en tête, les accuse d'être des collabos et ne veut plus les revoir au Liban. Pour les partis chrétiens, en revanche, les exilés devraient avoir le droit de rentrer chez eux. Et si la plaie se rouvre aujourd'hui, c'est à l'occasion du retour surprise d'Amer al-Fakouri, membre de cette milice pro-israélienne. Sitôt arrivé, sitôt arrêté. Alors voilà des manifestants devant le tribunal militaire de Beyrouth. Ils réclament de lourdes peines contre al-Fakouri, un traître pour eux. Amer al-Fakouri avait trouvé refuge aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Il avait été condamné par contumace pour avoir donné l'ordre de torturer des détenus libanais et palestiniens pour Israël. On estime aujourd'hui qu'entre 2400 et 2700 Libanais vivent encore exilés en Israël, dont 1200 chrétiens de Klaya, ce village, avec leur famille. Donc on ne veut ni d'eux ni de leurs enfants, disent aujourd'hui des anciens prisonniers et le Hezbollah.
On termine par les médecins qui, eux, sont mis aussi à contribution pour sauver la planète.
Ça se passe au Royaume-Uni avec un article du Guardian. Il pose cette question, comment les généralistes peuvent agir pour émettre moins de CO2? Ils pourraient commencer par prescrire moins de médicaments, car ces médicaments sont la première source d'émissions polluantes au sein du NHS, la Sécurité sociale britannique. Réduire les opioïdes, les antidépresseurs et puis également recycler les inhalateurs pour les asthmatiques, voire abandonner son inhalateur.
Je sais pas si tu te rends compte, ça veut dire que tu peux risquer de t'étouffer en respirant de l'oxygène. C'est comme si un poisson se noyait, ça n'a aucun sens. Le pire, c'est que nous les asthmatiques, on n'est absolument pas respectés, alors qu'on est 300 millions sur Terre. Et malgré ça, personne ne respecte. Si, si, personne ne respecte, rien qu'à l'orthographe du mot, tu sens qu'on se fout de notre gueule. Asthme, ça s'écrit A-S-T-H-M-E.
Voilà, c'est l'humoriste belge Abdel Envray, asthmatique donc. Et là, ce n'est pas du tout une blague. Les inhalateurs des asthmatiques, première victime de la pollution, ces ventolines donc utilisent des hydrofluorocarbures pour propulser le médicament dans les poumons. Des gaz beaucoup plus puissants que le CO2, nous dit le Guardian. Alors la santé britannique demande aujourd'hui de prescrire d'autres inhalateurs à poudre sèche. La Suède les utilise déjà beaucoup. Ça pourrait faire baisser les émissions totales de 4%, c'est pas rien. Surtout quand on imagine qu'avec la pollution, on va compter de plus en plus d'asthmatiques à l'avenir.
Et c'est vrai, Amélie, allez, sous les radars, c'est fini. Et oui, on se retrouve demain.
Un coup de ventoline,
c'est ça que je voulais dire. Un petit peu de ventoline. Allez, Gorillaz pour changer. Feel good. Sur France Inter. Allez, Eva Béton est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Tant qu'il n'y a pas de vierge de plus sèche.
Qu'est-ce que c'est que c'est?
On sait, mon gars. Ma talon 7, quand t'es prêt aujourd'hui.
Pourquoi vous êtes en train de faire ça?
Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Você quer viver ou morrer?
Vivre ou mourir, le cinéma en VO, Eva, avec cette semaine un film brésilien donc, oui, dont on vient d'entendre la bande-annonce. Ça s'appelle Baracao.
Bacarao.
Bacarao. Voilà, dans le bon sens. Tiens, je vais vous laisser dire du coup comment s'appellent les réalisateurs.
De Kléber Mendonça-Fillo et Juliano Dornelles.
Bonjour, merci. Voilà. Prix du jury au Festival de Cannes. Mm-hmm. C'est un film inter aussi. Une fable politique, donc, qui résonne particulièrement, évidemment, aujourd'hui avec le Brésil de Bolsonaro.
Alors, c'est une fable politique, en effet, mais je dirais que c'est pas une charge directe. Ça passe par l'allégorie, ça passe par une énorme fantaisie. Un village oublié des pouvoirs publics et comment le climat change. Comment surgit une violence arbitraire. Quelque chose de fascisant, même si le mot n'est jamais prononcé. Les deux réalisateurs réalisateurs ont mis 8 ans à écrire ce scénario en faisant d'autres choses à côté, mais chaque fois le scénario bougeait en fonction de la manière dont la société évoluait. Et on ne peut pas dire que les cinéastes n'ont pas vu venir la montée de l'extrême droite. Peut-être que ceux qui nous écoutent ont en image, dans la mémoire une image qui remonte à 2016, le Festival de Cannes. Kléber Mendonça-Fio présente Aquarius. Toute l'équipe du film, en haut des marches, monte des pancartes en disant « un coup d'État est en cours au Brésil ». Il parlait du processus en cours à l'époque visant à la destitution de Dilma Rousseff. Baccarao, le film donc, a été terminé avant l'élection de Bolsonaro. Et par l'allégorie, justement, il fait sentir l'atmosphère qui y conduit. Je vous propose d'écouter Kléber Mendonça-Fio. Il date au carbone 14, si vous voulez, le moment de bascule de la société brésilienne.
On a clairement vu, sur les 5 dernières années, le moment où le Brésil a quitté la voie démocratique. Et ça a eu un effet terrible sur la société brésilienne. Depuis un certain nombre d'années, l'idée de démocratie avait acquis une forme de stabilité au Brésil. Il faut se souvenir que nous venions d'une dictature militaire à la fin des années 80. Et puis, après la période Lula, nous avons eu Dilma Rousseff pour 2 mandats. Quand elle a gagné les élections pour le 2e mandat, c'est là qu'on a senti les choses se gâter. Nous datons le début de la dérive dans notre société avec la procédure de destitution lancée contre elle, on peut dire le coup d'État.
Et alors, comment le film a-t-il été accueilli au Brésil, Eva ?
Fierté pour les Brésiliens, succès populaire, 500 000 entrées en 4 semaines, aucune réaction officielle du gouvernement malgré le prix à Cannes. Fondamentalement, c'est le genre de film, il y a eu plusieurs films brésiliens dans les festivals, c'est pour ça que je mets un plusieurs, et c'est le genre même de culture que déteste Bolsonaro, et dès son arrivée, il faut se souvenir qu'il s'est attaqué à cette culture.
Il y a une sorte d'ironie dans le succès actuel du cinéma brésilien, parce qu'il se produit au moment exact où le nouveau gouvernement s'emploie à détruire l'idée même d'un cinéma et d'une culture brésilienne. Dès leur premier jour au pouvoir, ils ont supprimé le ministère de la Culture. Pendant 15 ans, on avait construit un système démocratique visant à soutenir, à financer l'art, le cinéma. Depuis janvier, ils ont sabré dans la plupart des ressources publiques. Et bien sûr, cela nous rend, à nous cinéastes, la vie très difficile. Des sociétés de production ferment, les gens doivent se tourner vers d'autres activités. Ce qui se produit là est très triste.
Je voudrais juste rappeler qu'il n'y a pas que le contenu, je dirais, politique des films, il y a la manière de faire du cinéma. Kléber Mendonça-Fio est vraiment un grand metteur en scène qui a été repéré par les festivals dès le départ, en quelque sorte. Je vous rappelle des titres importants, Les Bruits de Récif, Aquarius et donc Baccarao.
Et bien voilà, c'est noté, ça sort aujourd'hui.
C'est en salle.
C'est en salle.
Et c'est un film
inter. On est mercredi, c'est un film inter. Baccarao, puisque je l'ai si mal dit tout à l'heure, et redonnez-nous le nom du réalisateur, parce que sinon les Brésiliens m'en veulent.
Ils sont de cette fois-ci Kléber Mendonça-Fio et Juliano Dornelles. Est-ce que je l'ai bien dit?
Mais vous êtes parfaite, merci beaucoup. Merci Eva, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Franck Madvon ce soir. Franck, l'Iran a été au cœur des discussions à l'Assemblée générale de l'ONU. On en parlait ici même hier. Emmanuel Macron a tenté de jouer le rôle de médiateur entre Donald Trump et l'Iranien Hassan Rouhani. Mais sauf coup de théâtre, les deux hommes ne vont pas se rencontrer. Et pour vous, Franck, c'est l'Iran qui a les cartes en main. Et c'est votre monde à l'envers.
Oui, quand on suit à distance, Fabienne, le dossier iranien, on entend souvent la même musique. L'Iran est étranglé par les sanctions américaines depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire l'an dernier. Le pays serait donc prêt à tout ou presque pour obtenir un allègement des sanctions. Alors c'est en partie vrai, l'Iran subit les sanctions de plein fouet dans les bazars de Téhéran ou d'Ispahan. La crise économique est au cœur des conversations. Les investisseurs étrangers, les multinationales sont partis. La monnaie locale, le rial, a beaucoup perdu de sa valeur, même si elle s'est ressaisie un peu récemment. Et surtout les exportations de pétrole, le moteur de l'économie iranienne, se sont effondrées.
Mais les Iraniens sont prêts à résister.
Oui, tous les responsables iraniens le disent. On a déjà subi des sanctions, on est habitué. Pendant la guerre contre l'Irak, c'est un traumatisme pour l'Iran, personne ne nous soutenait, l'Occident était derrière Saddam Hussein. Voilà le discours tenu par les Iraniens. En substance, nous tiendrons. C'est la stratégie iranienne face à la pression maximale de Washington. Téhéran applique la résistance maximale. Les Iraniens détricotent au fil des mois l'accord sur le nucléaire de Vienne en 2015. Pour la plupart des experts, Téhéran a beau nier toute implication, c'est bien l'Iran qui porte la responsabilité des attaques de pétroliers dans le Golfe en juin dernier ou de la destruction il y a 10 jours d'installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et la réponse des adversaires de l'Iran reste modérée. Les États-Unis semblent exclure une riposte militaire. Ils ont simplement durci un peu plus les sanctions économiques et promis l'envoi de centaines de soldats dans le Golfe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo envisage même une solution pacifique, il le dit. Et à la tribune de l'ONU, Donald Trump, tout en tenant des propos très fermes sur l'Iran, a déclaré hier que son pays ne voulait pas avoir des ennemis permanents. Presque une main tendue si on réécoute les derniers discours de Trump sur l'Iran.
Mais pour les Iraniens, c'est presque un aveu de faiblesse en fait des Américains.
Ouais, c'est la preuve, en tout cas Fabienne, que Donald Trump veut maintenant éviter l'escalade. Le président américain refuse l'hypothèse, on l'a dit, d'un conflit armé. Il est donc convaincu que les Iraniens sont prêts à discuter d'un nouvel accord sur le nucléaire pour desserrer l'étreinte des sanctions. Mais du point de vue de Téhéran, le raisonnement est tout autre. Pas question d'accepter une poignée de main entre Trump et le président Rouhani sans rien en retour. On ne discutera pas sous pression. C'est ce que vient de dire d'ailleurs Hassan Rouhani devant l'ONU. On va y revenir dans le journal de 19h. Depuis le début, les Iraniens exigent des gestes des États-Unis avant toute négociation. Un allègement des sanctions, des exemptions par exemple sur des exportations de pétrole. Si Washington n'offre rien, l'Iran dira non à un sommet avec Trump et les durs du régime iranien sont encore plus inflexibles sur ce point.
Et c'est donc ce qui s'est passé à New York.
Oui, à l'AG de l'ONU, Emmanuel Macron, on l'a dit, a tout tenté pour que Donald Trump et Hassan Rouhani se retrouvent autour d'une même table. On le rappelle, ce serait la première rencontre à ce niveau depuis plus de 40 ans entre les États-Unis et l'Iran. Le Français l'avait dit dimanche soir, quelque chose est possible à New York. Il a vu les deux hommes à plusieurs reprises. On connaît le plan de la France, allègement des sanctions en échange d'un réengagement des Iraniens dans l'accord de 2015 et d'une ouverture au dialogue. Mais les efforts d'Emmanuel Macron ont été vains. Beaucoup d'agitation, de com, une médiation bruyante et au final un échec, au moins pour le moment, comme si la détermination de l'Iran avait été sous-estimée.
Franck Madvon et Le Monde à l'envers, merci beaucoup Franck. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, on a de la chance.